Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission qui vous parle d'histoire, mais qui n'oublie pas de faire la fête. Oh, quand on a envie de faire la fête, qui appelle-t-on ?
Pierre-Jean Chalençon, non ?
Non, vous, Stéphane Bern. En tout cas, moi, quand je veux m'amuser, c'est vous que j'appelle. Hein.
Et vous faites bien. On va encore se régaler aujourd'hui. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Chaque après-midi, on réunit, vous le savez, trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, trois femmes un peu spéciales. Trois mytho-women. De fabuleuses à fabulatrices. C'est comme ça que vous les appelez, Mathieu.
Oui, je sais que vous, c'est moins fleuri.
Salope !
Mais moi, j'aime l'élégance désuète de fabuleuses à fabulatrices. Je trouve que ça sonne mieux. Vous nous les présentez, Stéphane ?
Oui, d'abord Marthe Richard. Elle a laissé son nom dans l'histoire pour avoir été celle qui a fait fermer les maisons closes après la Seconde Guerre mondiale. Elle-même a été prostituée, espionne, elle a eu mille vies. Et s'en est inventé de nombreux autres aussi. Oui. Puis, je vais vous raconter Violette Nozière, l'empoisonneuse, le monstre en jupon. Elle aussi a beaucoup menti, jusqu'à cette tentative d'assassinat contre ses parents qu'elle a empoisonné. Pourquoi ? Là aussi, ses raisons diffèrent. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai, d'une mytho-woman à 99% sincère.
Voire à 2%, Stéphane, je vous présente Tania Head, dite la mythomane du 11 septembre. Vous devinez évidemment de quoi il s'agit, ce n'est pas joli joli. Eux, en revanche, sont très jolis, ce sont nos chroniqueurs. Une équipe pas du tout composée de mythomanes, même si un des membres de cette équipe affirme être sorti avec R2-D2, le droïde de Star Wars.
Il était pas mal, jeune homme, j'ai regardé plein de photos de lui, pas si mal.
Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, chaque jour, vous entraînez dans les intimités des grandes semaines.
Oui, bonjour. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que je vous entraîne dans l'intimité de mes deux chroniqueurs préférés, buveurs de viandox. Oui, ça, il faut savoir. Il faut savoir, chers auditeurs, que tous les jours, Olivier Pauls et David Castello-Lopez ont leur petit rituel viandox. Alors, en hommage à toutes ces boissons...
Qui est Olivier Pauls ?
Pauls.
Je ne le connais pas.
Je l'ai francisé. Olivier Pauls. Pauls. Alors, en hommage à toutes ces boissons énergétiques à base d'extrait de viande, j'évoquerai pour vous aujourd'hui les buveuses de sang des abattoirs de la Villette.
Qu'est-ce
et oui, il fut un temps où les dames de la Haute se rendaient des potrons minés aux abattoirs, et telles David et Olivier dans le studio d'Europe 1 avec leur viandox, elles allaient recevoir leur dose de sang.
Mais pourquoi ?
Mais parce qu'elle manquait de fer.
Parce que c'était bon pour la santé.
C'est bon pour la santé,
mais oui,
bien sûr. Médical.
Qu'est-ce que vous croyez, les deux minettes, là, tous les matins, ils sont là à regarder les calories dans leur viandox.
C'est vrai qu'il
n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment très.
Ils filent un mauvais coton, ces deux-là. Hein. Justement, Stéphane, ils sont là. Par qui on commande ? David Castello-Lopez, peut-être ?
Oui.
Chaque jour, l'histoire d'une invention aux origines, aujourd'hui, aux origines d'une expression.
Oui, tout à fait. C'est les vrais gens.
Les vrais gens.
Vous savez, les vrais gens de la vraie vie, hein, qui sont des gens un petit peu particuliers. On ne sait pas très bien qui c'est. En tout cas, c'est l'expression de l'expression, en tout cas, d'où elle vient.
C'est pays réel. C'est Maurras.
Et puis, avec Olivier Pouls, alors on va parler. C'est comme un saumon, non, le Gravlax ?
Majoritairement, c'est surtout une technique qui consiste à le préparer et à le conserver aussi. Oui. Donc je vous raconterai l'histoire du Gravlax, je vous expliquerai comment le...
Petite fixette, viandox, Gravlax, il y a quelque chose. Là.
Comment le faire, et en attendant, avec David, on va laisser... Tu t'occupes de l'eau, ou c'est moi ?
Non, ça va, je gère.
Okay. Oui. De l'eau de quoi ?
Pour le viandox.
Ah oui, d'accord. L'eau chaude. Oui, l'eau chaude, effectivement, j'avais oublié que ça se mélangeait.
Je précise que c'est à cause de lui, il y a quelques semaines, il a fait cette chronique sur le viandox, en deux épisodes, dois-je rappeler quand même. Et depuis, on en a des stocks à écouler.
On ne sait plus quoi faire. Mais surtout, la question qui se pose, c'est de quelle manière vous rémunérez par viandox ou la marque.
Posez-lui la question.
Je ne sais pas qui touche. Est-ce que vous répartissez les gains ?
Il ne m'aime pas, viandox, parce que quand même, j'ai posté un truc sur Instagram. Ils ont reçu 500 questions sur le viandox. Ils ne doivent pas beaucoup m'aimer. Je ne pense pas qu'ils m'aiment beaucoup.
Ils vous détestent. Enfin, les amis, c'est une épreuve terrible pour les mythomanes qui se sont inventés des connaissances historiques, voire des diplômes. Vers 5h-10, nous jouerons à Burn to be Alive. Et une fois de plus, les masques tomberont. Mais tout de suite, découvrons notre première mytho-woman de l'histoire. Stéphane Bern nous raconte Marthe Richard, à ne pas confondre avec Firmine Richard, comme je l'ai fait en préparant cette émission. Rien à voir.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Une existence rocambolesque que celle de Marthe Richard. Même elle, à la fin de sa vie, semblait se mélanger les pinceaux entre ses différentes versions. Cette Lorraine est surtout célèbre pour la loi qui porte son nom. Le 13 avril 1946, la Chambre des députés vote un texte interdisant les maisons de tolérance, plus communément appelées maisons closes. Mais c'est Marthe Richard, pourtant simple élue au Conseil de Paris, qui se donne corps et âme pour que les prostituées recouvrent leur liberté. En 1945, on dénombre 190 maisons closes dans la capitale. Parmi les plus connues, le Chabanais, le Wantoutou, le Sphinx. Marthe écume pendant plusieurs mois ces bordels du plus luxueux au plus sordide, dans lesquels elle comprend vite que certaines filles enchaînent jusqu'à 100 passes par jour, tous les jours, durant toute l'année, le week-end compris, et même les jours carillonnés. Elle découvre cet univers du sexe tarifé, ou plutôt le redécouvre. Car Marthe Richard, femme de 57 ans, a priori bien sous tout rapport, vivant dans le très chic 16e arrondissement, a volontairement dissimulé tout un pan sombre de son existence. Marthe Bettenfeld voit le jour en Meurthe et Moselle en 1889, deux semaines après l'inauguration de la Tour Eiffel. Formée à la couture, elle abandonne rapidement la confection de robes pour se donner à son premier amour, Antonio. Cet Italien lui fait miroiter une vie passionnée au soleil. Mais en réalité, ce Casanova s'avère être le rabatteur d'une maison close de Nancy. L'ancienne petite couturière atterrit donc à la blanchisserie, un bordel à soldats dans lequel elle attrape à de nombreuses reprises la syphilis. Inscrite au registre des prostituées, elle aspire à une vie plus romanesque. Elle fuit l'est de la France et ses maladies vénériennes, direction Paris.
Je précise on n'associe pas, l'est de la France aux maladies vénériennes. Hein, c'est une formulation. Voilà,
exactement.
Voilà, tout à fait. On embrasse tous les gens qui viennent de là-bas et des gens très bien.
Oui, il n'y a pas qu'à Nancy. Moi-même, j'ai vécu à Nancy.
Vous-même, dans ces années-là. Ma compagne, on embrasse.
C'est dans la capitale, au début du XXe siècle, que Marthe se refait une virginité sociale. Elle tombe amoureuse d'un homme séduisant, Henri Richer. Ce bourgeois a une jolie situation. Henri est mandataire royal. Marthe Bettenfeld devient Marthe Richer. Terminée les journées à relever sa robe pour satisfaire des soldats en rut ou des maris infidèles, Marthe est désormais une femme du monde, respectable dans ses toilettes élégantes, son bel appartement du quartier de l'Odéon et sa grande maison dans la Sarthe. En apparence, la vie est douce. Mais Marthe n'est pas un oisillon que l'on peut mettre en cage et nourrir à heure fixe. La jeune femme a besoin de sensations fortes pour se sentir vivre. Un jour, alors qu'elle assiste à une représentation d'aviation, Marthe a comme un déclic. Voilà, c'est ça qu'elle veut faire. Voler de ses propres ailes, devenir aviatrice. Si son mari, Henri, trouve l'idée très dangereuse, il accepte de financer des cours de pilotage. Et Marthe se révèle être une élève appliquée, disciplinée, et enfin, une aviatrice talentueuse. Elle devient la 6e femme en France à obtenir son diplôme. Marthe donne même des spectacles aériens en échange de coquettes sommes. S'envoyer en l'air et être payée pour ça. Marthe Richer y est habituée, mais cette fois, c'est elle qui l'a décidé. Pourtant, elle irrite. Alors qu'elle sort d'un violent accident d'avion qui la rend stérile, elle décide contre l'avis de tous de tenter de relier le Crotoy en baie de Somme à Zurich, en Suisse, soit près de 750 km. Le pari est réussi. Marthe savoure sa réussite, mais on lui reproche d'avoir menti, d'avoir fait affréter son avion sur un camion jusqu'en Suisse, d'avoir passé la frontière en train et de n'avoir effectué que le vol retour. Mais elle n'en a cure. Elle sait qu'elle vient d'accomplir un exploit. Qu'importe d'ailleurs ce qu'on pense d'elle. Avec la Grande Guerre qui éclate en 1914, elle se retrouve veuve 2 ans plus tard et compte bien mettre ses talents d'aviatrice au service de la France. Alors que les femmes investissent les usines pour fabriquer des missiles, Marthe veut absolument participer à l'effort de guerre en pilonnant les lignes allemandes. Déception. La France n'est pas encore prête à envoyer des aviateurs combattre l'ennemi, et encore moins des aviatrices. Mais grâce à son amant, au surnom de Zozo, un Georgien rencontré sur une base militaire, elle parvient, d'après ses mémoires, à se faire engager comme espionne pour le compte du gouvernement français. Son point de chute, Madrid, en Espagne. Son objectif, comme l'explique Nicolas Desciendorf dans la biographie qu'il lui a consacrée, est de réussir à soutirer des informations auprès des Allemands pour en informer son supérieur à Paris. Un soir, elle séduit un responsable des renseignements pour le Reich, le baron von Kron. Marthe devient rapidement sa maîtresse. Après leurs ébats, elle en profite pour prendre des notes sur les papiers qu'il laisse traîner. Là encore, a posteriori, les journalistes et politiciens émettent des doutes sur son véritable rôle d'espionne. La jeune femme reste floue. Marthe est comme cela, elle ne peut s'empêcher de romancer une vie pourtant déjà très riche. A-t-elle mené un double jeu ou est-elle vraiment passée dans le camp du Reich ? Impossible à savoir. Elle n'a pas encore 30 ans et Marthe Richard n'en a pas fini de susciter la suspicion. Surtout que l'ancienne petite couturière, la prostituée des bordels, est propulsée dans un monde qu'elle n'aurait jamais cru accessible alors qu'elle s'est remariée avec un cadre de chez Rockefeller et fréquente désormais le gratin. Pas une semaine sans dîner mondain entouré de manias de la finance, d'ambassadeurs, de princes, mais son mari Thomas Crampton meurt subitement d'une crise d'urémie. Marthe, qui n'a pas encore 40 ans, est donc veuve pour la deuxième fois. Surtout, la Seconde Guerre mondiale va la plonger de nouveau au cœur de la polémique. Anglaise, par son mariage, on lui conseille de quitter Paris pour la zone libre. Elle raconte qu'elle aurait traversé la frontière à bord d'une ambulance, plâtrée sur une grande partie du corps et la tête enrubannée d'un faux bandage. Elle aurait créé l'illusion d'une femme blessée allant poursuivre ses soins en zone libre. Marthe atterrit finalement à Vichy, où elle est accueillie par une amie. Elle s'acoquine alors avec un dirigeant collabo qui lui promet de lui redonner sa nationalité française en échange de torrides parties de jambes en l'air. Cet homme devient rapidement un fil à la patte qui traîne à lui délivrer son sésame. Un soir où Marthe aurait abusé d'alcool, elle se laisse aller dans un bar et insulte copieusement le maréchal Pétain, Hitler et les Allemands. À Vichy, ce genre d'attaque passe mal. Elle est sommée de s'exiler et rejoint Paris. Marthe entre alors en résistance. Elle aurait aidé notamment ses camarades à découvrir certaines planques allemandes, comme une usine de fabrication de missiles à Méry-sur-Oise, à 30 minutes de Paris. Mais Marthe est aussi accusée plus tard d'avoir servi les intérêts de l'Allemagne en acceptant de prêter son appartement à des parties fines entre officiers du Reich et des cocottes parisiennes. Celle qui fera fermer les maisons closes quelques années plus tard aurait donc été à la tête de son propre bordel, Porte de Saint-Cloud, en 1944. Après le vote de sa célèbre loi de fermeture des maisons closes, paradoxalement, Marthe Richard est conspuée. Elle est la femme à abattre, celle qui met des centaines de tenanciers de bordel sur le carreau et des milliers de prostituées sur le trottoir. Mère la pudeur pour certains, veuve qui clôt, pour le célèbre journaliste Antoine Blondin, ses détracteurs ne la ménagent pas. Dans la presse, on remet en doute son parcours. Un journal, Le Crapouillot, la définit comme une opportuniste qui veut à tout prix être sous les feux des projecteurs. Mais Marthe a du caractère. Elle porte plainte, gagne son procès et empoche 50 000 francs de dommages et intérêts. Pourtant, plus les années passent, plus ses discours sont confus. Sénilité ou mythomanie, Marthe Richard se perd dans ses nombreuses vies. Elle repose à présent au cimetière du Père-Lachaise. Et cela, ça n'est pas un mensonge, promis.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Marthe Richard et tenter surtout de démêler le vrai du faux, nous sommes avec l'écrivain Nicolas Destiendorf. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Destiendorf. Vous avez notamment publié Marthe ou les beaux mensonges chez Kalman Lévy. On ne compte pas les vies de Marthe Richard entre celles qu'elle s'est inventées et celles qu'elle a effectivement vécues. Il y a de quoi faire. C'est une matière incroyable pour l'écrivain et le romancier que vous êtes.
C'est-à-dire que c'est une matière incroyable, c'est un personnage incroyable, c'est même un, deux, trois, quatre romans qui s'imbriquent l'un dans l'autre. C'est parfois difficile de démêler le vrai du faux, mais c'est ça qui était, pour un romancier passionné d'histoire, c'est une mine.
Mais d'ailleurs, il y a écrit sur le livre récit et pas roman, il n'y avait pas besoin de faire un roman, sa vie est déjà suffisamment romanesque comme ça.
Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un roman, c'est-à-dire que j'ai mis en scène sa vie, ouais. En fait, j'ai lu les différentes biographies qui existent, ses souvenirs, les souvenirs du commandant Ladoux qui était son employeur au deuxième bureau pendant la Première Guerre mondiale. Et il a fallu démêler le vrai du faux parce que tous les livres qui la concernent se contredisent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Marthe Richard, il y en a quatre ou cinq. Donc il fallait tirer des fils.
Et comment on fait justement pour vérifier les faits, pour les comparer avec la réalité historique?
C'est à peu près infaisable parce qu'il y a des biographies très sérieuses de vrais historiens qui se contredisent. Donc en fait, je me suis mis dans la peau de Marthe Richard, puisque le livre est au jeu, il y a quand même une partie romanesque, et j'ai pris ce qui était à la fois le plus crédible et le plus beau à raconter. Donc forcément, il y a une partie un petit peu, voilà, il y a la licence poétique fait que, malgré tout, parfois je me suis embrigué, je suis parti dans des côtés un petit peu romanesques, mais en fait tout est vrai. Et comme c'est une femme qui n'a cessé de romancer sa vie, c'est peut-être le livre qui lui ressemble le plus au bout du compte.
Mais le titre dit « Marthe ou les beaux mensonges ». Donc ça sous-entend qu'il y a une certaine, selon vous, hein, une certaine beauté dans le mensonge, en tout cas dans ceux de Marthe Richard. Qu'est-ce qui fait d'elle une grande menteuse,
une belle menteuse ? Ce qui fait d'elle une belle menteuse, c'est qu'elle était sincère dans ses mensonges. Elle a toujours cru en ses combats, elle a cru presque ses retournements de situation. C'était une girouette qui était sincère. Donc il n'y a jamais de véritable fausseté. C'est juste qu'elle a. C'est une succession de personnalités différentes, mais qui se complètent et qui, au bout du compte, est très cohérente.
Oui, vous avez mis en exergue cette phrase de Marcel Aimé : tout le vrai est dans le mensonge. Ça s'applique particulièrement bien au cas de Marthe Richard.
Oui, absolument. C'est-à-dire que, en fait, c'est une femme qui vient d'un milieu extrêmement modeste, que rien ne prédisposait à une destinée aussi extraordinaire, et qui, à la force de son énergie et peut-être justement de son don d'auto-persuasion, s'est arrachée à cet univers. Je veux dire, elle est née dans un univers à la Zola, c'est Germinal ou c'est l'Assommoir, le début de la vie de Marthe Richard. Et puis, à la force de son énergie, elle passe effectivement par les bordels. Elle devient la femme d'Richemond à Terroal. Elle devient l'une des premières aviatrices françaises, et ça, c'est vrai. Elle devient une véritable espionne et elle a véritablement fait fermer les maisons closes avec une vraie sincérité. Mais au milieu de tout ça, elle ne peut pas s'empêcher d'inventer, d'enjoliver, parce qu'en fait, elle est aussi la romancière de sa propre vie.
Mmh. En tout cas, on va continuer à parler d'elle. C'est vrai que nous, on la connaît uniquement parce qu'elle a fermé.
Hein. Ça vous en êtes parmi, Stéphane.
Non, oui, je n'ai jamais fréquenté ces maisons de tolérance. Non. Mais c'est vrai que le Chabanais fait penser à plein le one-to-two. Enfin bon. On n'est pas là pour évoquer.
Vous êtes quand même nostalgique un peu quand même, Stéphane.
Non,
même
mais
si vous
oui.
Ne fréquentiez pas.
Pour qui aimait la Belle Époque, c'est là où Édouard VII venait s'encanailler. Donc c'est un lieu historique.
Vous écrivez dans votre livre Marthe ou les beaux mensonges. On ne progresse pas sans quelques tricheries, sans de pieux mensonges. J'ai toujours pensé que la fin justifiait les moyens dès l'instant qu'elle ne faisait pas souffrir qui que ce soit. Donc ça, c'est Marthe Richard qui dirait ça. Elle avait une morale, vous pensez? Quelles étaient les limites de ces mensonges? Est-ce que déjà, elle se fixait des limites ou pas?
Je pense pas. Je pense qu'elle était obsédée par elle-même, par un désir de reconnaissance. Elle se fixait sa propre morale qui évoluait, c'est-à-dire que cette morale avait une géométrie variable. Mais ce que je disais, elle était... L'important, c'est sa sincérité et ses combats étaient de vrais combats. Elle avait véritablement un patriotisme. C'est une femme qui est née à quelques kilomètres de la frontière allemande, donc de la Moselle occupée. Enfin, donc il y avait un vrai côté revanchard et pour elle, l'ennemi, c'était l'Allemand. Par exemple, pendant la guerre, c'était un vrai combat. Et lorsqu'elle a fait fermer les maisons closes, c'était aussi c'était sincère. C'est qu'en fait, elle, même si elle avait masqué, elle travaillait en connaissance de cause.
Au moment où Marthe Richard effectue son fameux défi que je vous ai raconté, le Crotoy-Zurich, vous racontez qu'elle reçoit, certaines personnes ont dit qu'elle avait menti, hein. Elle reçoit ce conseil suivant, c'est ce que vous racontez, pour qu'un mensonge soit efficace, il faut qu'il reste cohérent, il faut surtout s'y tenir, ne jamais avouer son imposture. C'est un peu la ligne de conduite qu'elle était jusqu'au boutiste dans ses mensonges.
Elle était jusqu'au boutiste dans tout, dans ses combats, dans ses mensonges, dans ses amours, même si toutes ses amours étaient malheureuses. Oui. Elle était jusqu'au boutiste, même dans l'absurdité parfois de ses raisonnements. Ce qui fait qu'à la fin, c'était une femme qui était un peu perdue dans ses combats et même dans ses comme une sorte de labyrinthe mémoriel. Oui. Et à la fin, elle était totalement, totalement perdue. Quand on voit les interviews d'elle à la fin des années 70, elle dit tout et n'importe quoi. Elle prône la réouverture des maisons closes. Elle veut que les femmes restent à la maison et soient des petites couturières. C'est-à-dire le contraire de tout ce qu'elle a professé pendant toute sa vie.
Elle les a tués, ses maris, ou pas?
Alors, elle a un côté veuve noire, elle a un côté monde religieuse.
Mais c'est ça, parce qu'il y a deux maris. Comme... Bon, être veuve une fois, c'est de la malchance. Être veuve deux fois...
On peut tromper une personne mille fois.
Surtout, il y a deux maris, il y a deux héritages.
Oui.
Le premier, monsieur Richet, est un monsieur qui a beaucoup d'argent. Et le deuxième, monsieur Crompton, elle a eu toute sa vie des subsides tous les mois de la Fondation Rockefeller.
Oui,
donc on s'interroge.
On s'interroge quand même. Vous avez posé la question.
Je ne juge pas mon personnage, j'essaie de le comprendre, ça c'est la maxime simenonienne. Au départ, j'avais une opinion assez négative sur Marthe Richard, parce que voilà, j'ai été aussi nourri par Antoine Blondin et Jean Galtier-Boissière du Crapouillot, donc c'est un personnage que j'aimais pas beaucoup, et en fait je trouve qu'elle est touchante, et jusque dans ses ambiguïtés, en fait je me suis prise au jeu. Peut-être parce que justement je l'ai fait au jeu, J-E, que je me suis mis dans sa peau, c'est pas tous les jours qu'on est dans la peau d'une femme, surtout d'une femme comme ça. Et en fait, je l'aime bien, ma Marthe, parce qu'elle est... parce que, jusque dans ses ambiguïtés, je vous dis, elle a toujours été sincère.
Et ce qui est quand même un peu déroutant, c'est qu'au moment où elle ne ment pas, où elle fait voter sa célèbre loi de fermeture des maisons closes, elle n'est pas reconnue pour ça, elle est même conspuée. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire a été finalement injuste avec elle ?
C'est, en fait, Marthe Richard, les gens en avaient marre. C'est-à-dire que c'était une femme omniprésente dans les années 30, quand elle a publié ses mémoires, quand on a écrit sur elle. Et c'était une des personnes qui, alors, on n'était pas à l'époque des grands studios de radio et tout ça, mais qui était convoquée dès qu'il fallait parler d'un sujet. Il y avait toujours Marthe Richard dans un coin qui venait donner son opinion. Et à la fin, les gens en avaient un peu.
Surexposition médiatique.
Absolument. Et tout à coup, la voir ressortir du chapeau avec une étiquette de résistante dans l'immédiate après-guerre, les gens se sont dit oulala. Mais on lui a confié ce combat qu'elle a mené très sérieusement. Et il y a une sorte d'abus de langage, c'est-à-dire qu'on dit loi Marthe Richard, alors qu'en fait, elle était élue au Conseil de Paris. Elle n'était pas du tout députée. Donc en fait, ça n'est pas la loi Marthe Richard, mais c'est passé dans le langage courant. Et il y a un moment où effectivement, les gens en ont eu assez. Et surtout, en fait, ses ennemis, c'était la police. Parce que les bordels, c'était la principale zone de renseignement pour tous les flics. Et donc, il y avait, comme on dit, un équilibre entre les bordels et la poulaille. Et là, tout à coup, en fait, elle supprimait une grande source de renseignement pour la police. Et donc, c'est eux qui ont commencé à déterrer des choses sur elle, à faire passer des informations au Crapouillot et à d'autres journaux, et à lancer une vraie campagne de calomnie, qui était une campagne réelle et fondée, parce qu'elle a été prostituée à Nancy, elle était inscrite au fichier de la prostitution, fichier qu'elle a effectivement voulu faire supprimer, et ça n'y est pas arrivé.
Vous écrivez aussi « Les féministes l'avouent aux gémonies car elle n'a jamais épousé leur cause, elle a pourtant fait plus pour son sexe que bien des révolutionneuses de salon ».
Ça, je pense que c'est vrai. Effectivement, elle n'a jamais voulu... beaucoup de féministes, surtout dans les années 70, ont voulu la récupérer. Elle disait, mais je ne veux rien avoir avec ces houris, avec ces hystériques. Moi, voilà, elle a un rapport. C'est une femme du 19e siècle, quand même. Donc, elle a un rapport au sexe fort, un peu à l'ancienne. C'est plutôt une cocotte, mais une cocotte type qui pense, une cocotte qui agit et une cocotte qui vole.
Et c'est parce qu'elle s'en mêlait les pinceaux à la fin de sa vie que vous avez préféré l'abandonner, si je puis dire, en 1957. Dans une note au lecteur, vous dites « Durant ces 27 dernières années, l'aviatrice devint la caricature d'elle-même. Elle vire au fond à la vieille dame indigne qui dit n'importe quoi. »
Oui, absolument. Elle vire à la vieille dame indigne, sans charme, ambiguë et pas très sympathique. Et ça n'ajoute rien à son parcours. Donc, je préférais arrêter au moment où elle avait encore des choses à raconter. Surtout, c'est la vie d'une vieille dame à qui il n'arrive à peu près rien. Elle fait un vague passage chez Pivot en 1974, où elle dit pas mal de conneries, parce qu'elle a encore écrit ses mémoires une énième fois, une fois de plus, elle invente plein de choses. Puis, elle a toute fin de sa vie, elle fait des déclarations limite politiquement très très incorrect et totalement totalement incohérente.
Et donc on a compris que c'était un personnage plein de contradictions, de paradoxes. Son rôle pendant la guerre par exemple est quand même très ambigu. Est-ce que vous avez réussi en vous plongeant dans sa vie à comprendre tous ces actes ou il y en a qui demeurent des énigmes même pour vous ?
De toute façon, c'est une énigme, mais c'est ça qui est passionnant. Pour un romancier, on se plonge, on s'enfonce là-dedans. Non, il reste des mystères. L'histoire du Crotoy, on ne le saura jamais. Les fameux bordels chez elle, c'est vrai, pourquoi elle a fait ça? Parfois, c'est des rencontres. Elle avait le goût du danger, elle ne pouvait pas résister, je pense, à certaines choses. C'était une femme qui avait un rapport au corps, même assez étrange. On se demande si elle n'était pas frigide, donc le rapport qu'elle avait aux hommes, c'est très... Ça reste un mystère, mais c'est un beau mystère.
Vous citez cette phrase de Jean Cocteau, « Je suis un mensonge qui dit la vérité ». Au fond, peu importe qu'elle ait menti ou dit la vérité, l'histoire est bonne.
L'histoire est bonne, et puis elle a quand même fait œuvre nécessaire, je pense, parce que la fermeture des maisons closes, même si on peut avoir une certaine nostalgie de cette époque-là, une nostalgie très, très voilà, rétrospective et très esthétique, mais quand on voit ce que c'était que les maisons d'abattage dans le nord de Paris, on parle toujours du Chabanais, du Sphinx, qui était l'endroit merveilleux avec 18 filles qui étaient traitées comme des princesses. Mais c'est les bordels des portes de Paris où les filles faisaient parfois 5 ou 6 passes par jour, toute l'année ronde, ça paraît absolument inimaginable. Oui. C'était des filles qui étaient allongées comme sur un lit d'hôpital et les messieurs défilaient. Enfin, c'est monstrueux. Et ça, elle a témoigné contre ça et je pense qu'elle a fait œuvre utile.
Merci beaucoup, Nicolas Dessiendorf. Je rappelle le titre de votre livre, Marthe ou les beaux mensonges, chez Kalman Levy. Et le dernier, c'est Petit éloge de la gourmandise qu'il ne faut pas oublier aux éditions Les Pérégrines. Merci beaucoup.
Merci
à bientôt.
Beaucoup.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui tombent à pic à l'heure du goûter. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Ah oui. Oui, cet après-midi, Clémentine, pour
qu'est-ce
notre
pour
goûter, vous nous emmenez à l'abattoir. Je ne vous cache pas qu'on a un peu peur.
Ah oui, un peu.
Ben écoutez, j'ai lu un livre intitulé « Les oubliettes de l'histoire ». Et c'est une somme d'anecdotes historiques sombres et grinçantes. Un livre de Priscille Lamure aux éditions du Trésor. Et j'étais d'abord tombée sur tout un chapitre sur l'histoire des poupées gonflables. Les femmes du capitaine, les femmes de bambou que les navigateurs hollandais emportaient à bord pendant leur voyage. Et en fait, David Castello-Lopez m'a soufflé.
Oui.
Il m'a soufflé le sujet. Et bien qu'à cela ne tienne, comme je ne suis pas du tout rancunière, non seulement je m'en suis tenue à un autre chapitre de ce livre, mais j'ai voulu rendre hommage donc à mes amis buveurs de Viandox, Magie, Oxo, Beauvril, voilà, en parlant des buveuses de sang de la Villette. Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane, au 19e, les femmes se boudinent dans des corsets. Et ça entrave la circulation, ça coupe aussi la respiration, bien sûr, ça entraîne des palpitations, des syncopes. Pourquoi est-ce qu'on voit très souvent dans
des films,
femmes tombent dans les pommes, on leur apporte des sels, etc. On a l'impression que ce sont toutes des fleurs qui manquent d'eau, enfin qu'elles sont d'une fragilité, un signe. Bon, évidemment, l'époque, c'est l'époque de la phtisie, de la neurasthénie, et ce qu'on appelle la chlorose. Aujourd'hui, on parlerait d'anémie, mais c'est très très fréquent, la chlorose. Bon, alors pour fortifier leur sang appauvri, eh bien les médecins préconisent une cure de fer. Et pour faire une cure de fer, quoi
de mieux, que le sang,
qu'un verre de sang naturellement. Ça se pratique d'ailleurs depuis la nuit des temps.
On parle de sang de bœuf. Hein.
Ah oui, du sang de bœuf.
On ne se rend pas
en prison à attendre qu'il y ait un guillotiné pour récupérer.
Pas de cannibalisme, historiquement.
Il y a bien l'histoire de Marie Maury de son Breuil, que joue l'héroïne au verre de sang, qui a sauvé son père en buvant un verre de sang de guillotiné. Je vous avais raconté ça il y a quelques mois. Mais là, non, c'est tout autre chose. C'est du sang de bœuf, naturellement. Depuis la nuit des temps, on sait que le sang empiriquement, intuitivement, on pense que le sang, on mange bien du boudin, tout à fait. Je ne sais pas si les Romains mangeaient du boudin, mais en tout cas, dans l'Antiquité, on pensait que ça permettait d'éviter les crises d'épilepsie, le sang. Alors, dans les années 1840-1850, on découvre l'hémoglobine, on découvre que le sang est très riche en fer et que justement, il existe une forme d'anémie par carence de fer. Il y a d'ailleurs un certain pharmacien, M. Duroy, lauréat de l'Institut de médecine, qui en 1875 invente les célèbres pilules à l'extrait de sang de bœuf. Et il vante les vertus du sang de cet animal sain et robuste et identique en tout point au sang humain. Boire du sang est désormais fortement recommandé à toutes celles et ceux qui souffrent de faiblesse de constitution et autres débilité, hein, c'est la terminologie de l'époque, les chlorotiques, les tuberculeux, les poitrinaires, les hystériques, les splénétiques, c'est les dépressifs. Et puis les femmes, dans leurs derniers mois de grossesse aussi, c'est bon de boire du sang. Alors, c'est comme ça, écrit Priscille Lamure, que naît cette vogue des buveurs de sang et qu'elle se répand parmi les élégantes valétudinaires de la bonne société. Il leur faut du sang. Or, s'il y a un lieu où le sang coule à flot, c'est aux abattoirs de la Villette, parce que là-bas, il est distribué gratuitement. La Villette, c'est 55 hectares de marché aux bestiaux et d'abattoirs au nord-est de Paris.
Il n'y avait pas la Géode alors ?
Non, il n'y avait pas encore la Géode. Et il y a des restes de l'abattoir, hein, l'espèce de rotonde. C'était
oui,
la rotonde
vrai,
des vétérinaires. Il reste la grande halle où
on
stockait
les
bestiaux, bien sûr. Hein. Alors, ça a été inauguré en 1867 dans le cadre des travaux d'Haussmann. Bah, parce qu'avant, on abattait les bestiaux en pleine ville. Hein. Pourquoi Saint-Jacques, la tour Saint-Jacques rue de Rivoli, on appelle ça Saint-Jacques la boucherie. C'était le quartier des bouchers. Il y a la rue Aubry, le boucher. On abattait les bestiaux en pleine rue. Donc, vous marchiez dans du sang, là, ça caillait au sol, ça devait sentir mauvais. Puis on, parfois, on abattait mal les bestiaux. Donc, ils partaient là, à moitié, ils se tourbillent en courant dans les rues, ça faisait des morts. Non, tout ça n'était pas très hygiénique. Hein. Donc, on est passé à la cité du sang. La Villette, c'est la cité du sang. Et chaque jour, plus de 10 000 bêtes sont occises pour que vous puissiez avoir votre steak, messieurs. Hein. Il y a 150 échaudoirs, des endroits où on estourbille, on tue les bêtes. Hein. Et alors, on recueille leur sang dans des grands baquets qu'on appelle les ronds. Et là, on agite le sang pour empêcher que ça coagule. Donc, vous avez des petits gars qui sont là avec des grands battoirs à agiter le sang. Et c'est au milieu de cette apocalypse sur fond de beuglement que se faufile de frêles jouvencelles, buveuses de sang, dûment chaperonnée, parce que le quartier de la Villette, c'est quand même très très mal famé. Mmh. Donc on n'y va pas tout seul. Et elles boivent du sang en disant, ça va me renforcer, je vais devenir plus belle, plus forte, plus fraîche. Il y a aussi des ouvrières, parce que socialement, la cure de sang, elle est pas assez gratuite. Donc tout le monde peut y aller. Des ouvrières qui portent dans leurs bras un enfant un peu rongé par la phtisie ou trop fragile, et on l'emmène boire du sang. Dans Paris, Patraque, le romancier Alexandre Epp témoigne, parfois le matin, rue de Flandre, devant les abattoirs en éventail, c'est une longue file d'équipages. De jeunes filles toutes frêles descendent de coupés capitonnés et boivent d'un trait un godet de sang visqueux. Le sang de veau serait plus sucré et le sang de bœuf plus âcre. Quant au sang humain, eh bien, je ne peux rien vous en dire.
Mais comment il était distribué ? C'est-à-dire qu'il y avait des...
Alors, on donnait une pièce à un petit gars qui allait chercher un verre de sang dans un baquet.
On pouvait prendre une pinte, un demi-litre.
Et qui revenait... Oh, bah, chacun
donc, on conservait le sang dans les baquets.
Alors, c'était le matin. Ça se passait uniquement le matin. Vite, hein, de toute façon, le sang, ça coagule vite. Hein, donc, c'était le matin, le sang frais, on le battait dans ses ronds. Et puis, c'est là que il y avait, semble-t-il, rue de Flandre. C'est incroyable d'imaginer ces équipages très chics de jeunes filles qui laissaient leurs petits bichons dans leur carrosse et qui allaient... Alors, c'est dégueulasse en plus, un verre de sang chaud visqueux comme ça. Oh là 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 là, fallait-il être coquette ? Alors bon, donc cette histoire et d'autres encore sont à retrouver dans les oubliettes de l'histoire, où l'auteur revisite quelques affaires très très connue, auquel elle redonne des couleurs, parce qu'elle a un ton très très vivant, très enjoué. J'ai vraiment beaucoup aimé Les Possédés de Loudun, Les Convulsionnaires de Saint-Médard, Le Bazar de la Charité. Bon, ça, c'est vraiment des thèmes assez classiques, mais elle a aussi fait quelques trouvailles, dont les visites à la morgue. Alors là, ça vous plairait, Mathieu, de toute façon. Oh, parce que vous nous aviez posé une question dans le quiz sur la morgue, autrefois la morgue où tout Paris se rendait pour voir des cadavres. Alors là, elle raconte ça d'une façon pleine de détails. Mon vieux, c'est quelque chose. Bon, il y a les poupées érotiques et justement ces buveuses de sang. Vous trouverez tout ça dans les oubliettes de l'histoire, messieurs. Et à la vôtre. Hein.
Ah oui, à la nôtre, effectivement. Bon goûter à tous. Et le sang va continuer de couler puisque le quiz arrive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous venez de l'entendre, elle n'a pas son pareil. Pour nous entraîner dans l'intimité de l'histoire, nous livrons des détails croustillants, parfois je dirais trop détaillés, d'ailleurs, quand on pense qu'il n'est même pas 5 heures de l'après-midi.
Il secouait son stylo, il en mettait absolument partout, il en mettait sur sa table, sur les fauteuils, sur les coussins,
Oui, il en mettait partout. Pensez tout de même, Clémentine, que des enfants peuvent nous écouter en rentrant de l'école, donc choisissez mieux vos mots à l'avenir. Heureusement, il y a cette séquence plus tout public que votre chronique, notre quiz. Jouons à Burn to be Alive. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. 1635, c'est la création de l'Académie française. Quand on entre dans cette vénérable institution, on a le droit à un signe distinctif, important, montrant l'appartenance à la maison du roi, l'épée. Les ecclésiastiques n'en portent pas, les femmes peuvent, si elles le souhaitent, choisir un sac à main à la place. Vrai ou faux ?
Attendez, est-ce que toutes les femmes académiciennes, je crois que c'est pas un sac à main, mais... On n'est pas obligé d'avoir une épée.
Ce n'est pas la question que je vous pose. Je vous demande si les femmes peuvent, si elles le souhaitent, choisir à la place un sac à main.
Non, ça serait.
Puis ça serait extrêmement sexiste en plus, cette histoire.
Ça serait ouais.
Oui, bah ça doit être vrai. Alors là je commence à vous connaître, Mathieu.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, Stéphane. Préparez-vous. Un jour, vous allez rentrer à l'Académie française.
Vous pourrez choisir un sac à main.
C'est ce qu'a fait la spécialiste de la civilisation et de la langue grecque, Jacqueline de Romilly. Elle est entrée en 1988.
Oui, je savais qu'elle n'a pas voulu d'épée.
Elle nous a quittés en 2010 à 97 ans. Elle avait choisi un sac à main brodé de palmes ainsi qu'une broche. C'est certainement pas le choix que ferait aujourd'hui une femme.
Mais elle est la seule en son genre, alors, de toutes les académiciennes.
Certes, je vous le concède.
Les autres ont une épée.
Je vous le concède. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Restons à l'Académie française. On y est si bien, c'est chauffé, restons. 1980, Marguerite Yourcenar entre à l'Académie. C'est la première femme depuis la création de l'institution en 1650. Les femmes ont parfois porté l'épée, comme Hélène Carrère-Dancausse ou Simone Veil. En 2018, la philosophe Barbara Cassin fait sensation car elle choisit une épée laser, comme dans Star Wars. Vrai ou faux?
Non. Non, l'Académie est quand même une vénérable institution, que la pionnière de l'Académie n'ait pas voulu porter l'épée, on peut le comprendre, mais venir avec le symbole de l'acculturation américaine avec le sabre laser de Dark Vador.
Vous enfin, connaissez bien.
Alors, elle aurait pu, sur l'épée gravée, si elle a une dévotion spécifique pour la guerre des étoiles, ajouter un petit sabre laser gravé dans un coin. Mais de là à venir avec un sabre laser à l'Académie, non.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, vous aussi. Une épée lumineuse en cuir souple qui s'allume sur une citation de Jacques Derrida, « Plus d'une langue ». Rien de cochon, c'est juste pour souligner l'importance de toutes les langues. Comme quoi, voyez,
voilà,
les
une épée lumineuse qui s'allume. Oui, mais enfin, c'est pas par référence à la guerre des étoiles.
Mais bien sûr. Question numéro 3, Stéphane.
Mais le menteur.
Pour l'instant, 0-0.
Hein. Mythomane, vous êtes un
mythomane. Mais 0-0.
N'importe quoi. Ben, je m'adapte au thème de l'émission.
Un académicien avec l'épée de Dark Vador.
Peintre de la violence, de la tragédie et de la cruauté. C'était pas moi qui le dis, mais sa fiche Wikipédia. Francis Bacon a été un élément majeur de l'art contemporain. Georges, d'ailleurs, a été son amant. Il s'en est souvent servi comme modèle. Il l'a rencontré car c'était l'homme qui lui livrait tous les jours de la peinture. Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai.
Vous y allez comme ça?
Écoutez, je ne sais pas, donc...
À l'histoire de l'art, c'est pas votre
fort. C'est celui qui lui livrait ses bouteilles de lait.
Oui. Ou peut-être ses bouteilles de lait. Mais c'est...
Son journal.
C'est pot de peinture.
Il lui apportait le lait de Georges.
Oh non, je n'irai pas. Je ne céderai pas à ces facilités-là. Non, je dirais oui parce que c'est. Vous l'avez raconté comme une belle histoire. J'y ai cru.
Vous avez envie d'y croire.
Oui, j'ai envie d'y croire.
Vous avez, et ça devient une habitude, encore perdu.
Ça vous apprendra à écouter des histoires.
En régie, vous n'êtes pas obligé de rajouter des commentaires.
C'est vraiment désobligeant, hein, ça commence à bien faire.
Tu rigoles, ils vont pas l'enlever, c'est leur moment préféré. Alors, c'est faux. C'était son cambrioleur, figurez-vous. Criminel londonien, Georges pénètre d'abord la propriété de Francis Bacon. Ils deviendront amants maudits, un cocktail de sexe, de drogue et d'alcool.
Oui.
Il va se suicider par overdose, le pauvre Georges. Bacon fera par la suite des toiles encore plus sombres, encore plus torturées, encore plus sublimes, diront les esthètes. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Donald Duck est né en 1934 dans un film d'animation intitulé « Une petite poule à viser ».
Oui, là c'est l'histoire pure. Là on est dans l'histoire moyenâgeuse, Clémentine.
Une petite poule à viser. C'est aussi le titre d'un autre film.
Là,
autre
on met en jeu nos diplômes. Hein.
Oui, là, il ne faut pas se planter. Et surtout qu'il n'y a pas un seul point qui a été marqué aujourd'hui. Il ne doit pas être confondu, Donald Duck, avec le gouverneur du Nigeria. Il s'appelle aussi Donald Duck et il s'est même présenté à la présidentielle. Vrai ou faux?
Bien sûr, Donald Duck, président du Nigeria. Oui?
Vous avez gagné!
La politique africaine n'a pas de secret pour elle,
Stéphane. Je suis né en Afrique
vrai,
en même temps. Voilà,
c'est bien cette connexion avec l'Afrique.
Tout est là.
Vous l'avez, effectivement, il a gouverné un état du Nigeria pendant 8 ans. Il s'est représenté aux présidentielles nigériennes en 2019. Il a fait 0,13%. C'est un peu la seule émission dans laquelle on va parler de lui. Clémentine a gagné, mais ouais. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on s'en foutait. On va quand même faire la dernière question. Elle vaut 3 points. Évidemment, là, c'est qui tout double. Vous ne connaissez normalement pas Thomas Thurlow. Il est né en 1737. Il a été l'évêque de Durham, une ville du nord-est du pays située près de Newcastle. Pourquoi je parle de cet homme d'église? 3 propositions. 1. Il a été le premier à évoquer le mariage gay au Royaume-Uni. On est quand même en 1737. 2. Il n'est pas légalement décédé. Ou 3. Il a fait avancer la science en léguant son rectum.
2. 1.
Je vous donne la possibilité de répondre autre chose.
3.
Oh, Stéphane Bern. Stéphane Bern sur le fil. Mais oui. L'histoire anglaise. Il est féru d'histoire anglaise, Stéphane. Et il savait, évidemment, vous connaissez...
C'est une histoire qui a du fondement.
Mais c'est une histoire qui a beaucoup de fondement. Cet évêque a donc légué son rectum. On peut le voir.
Il est exposé.
Exactement. Au Hunterium Museum de Londres, dans le Collège Royal de Chirurgie d'Angleterre. Et il regroupe toutes les bizarreries conservées dans du formol que collectionnait le célèbre chirurgien écossais John Hunter au XVIIIe siècle. Sur la plaque du bocal, il est écrit « Un rectum montrant les effets des hémorroïdes et du cancer de l'intestin ». Et la communauté scientifique reconnaît que ce don était important pour l'avancée de la science. Merci, Monseigneur Thomas Turlough. Ce quiz vous est dédié.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur de ces deux heures qui font autant de bien à vos zygomatiques qu'à vos neurones. Historiquement vôtre chaque après-midi. Mathieu, trois personnages différents, mais unis par un point commun. Aujourd'hui, on réunit plus que des mythomanes, des mythowomanes. Oui, que des femmes qui étaient quelque part des fabuleuses affabulatrices.
Oui, les mythomanes sont partout. Hein. Mentir sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on est capable de faire est hélas monnaie courante pour beaucoup de gens. Stéphane, par exemple, m'avait assuré qu'il maîtrisait bien l'imitation du coq.
Kikeriki, kikeriki.
Non, ça reste. Ça reste de la mythomanie légère, non. Stéphane.
Oui,
hein.
Oui. Ça fait de mal à personne.
Non, voilà, vous. Ça ne porte préjudice à personne à part à notre émission. En revanche, nos personnages, elles, ont fait plus de dégâts.
Oh oui, Mathieu. Surtout qu'après Marthe Richard, je vous raconte le destin d'une mythowoman hors norme, mythomane et empoisonneuse. Son nom donne encore des frissons. Un siècle plus tard, je vous raconte le destin de Violette Nozière. Mais hélas, les mythowomans sont encore présentes de nos jours.
Effectivement, Stéphane, mais c'est d'une mythomane un peu différente dont je vais vous parler. Tanya Head est américaine, enfin on croyait. Pendant des années, elle était la présidente de l'association des victimes du 11 septembre, dont elle était une survivante. Enfin, on croyait, car en fait, elle avait tout inventé, la Tanya, de A à Z. C'est le New York Times qui a révélé cette étrange et dérangeante mystification.
Mais nous-mêmes, nous avons de célèbres chroniqueurs qui ne sont pas...
Non,
ils ne sont pas mythomanes.
Non, pas mythomanes,
David Cassé-Lopez qui nous raconte, il remonte aux origines. Bah, là, c'est une expression, on dit toujours, c'est vrai, les vrais gens.
Oui, exactement. Les vrais gens, c'est quoi les vrais gens,
hein?
C'est
et
quoi
par rapport
à des faux gens?
Qui a eu l'idée de...
Qui a eu l'idée? On le verra ça ensemble.
Olivier Pouls, notre spécialiste gastronomique.
Commencez pas à avoir un peu faim.
Alors je commence à avoir très faim pour tout vous dire. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui?
Et si pour l'apéro, on se faisait quelques tranches de saumon Gravlax?
Oui, volontiers, vous les avez apportées?
Toujours pas?
Alors, vous verrez que pour faire du saumon Gravlax, il faut avoir un peu de temps devant soi.
Ah,
alors, si je mets le saumon Gravlax en préparation maintenant, on les mangera dans deux jours. Ça vous va?
Non, c'est trop long.
Bon, on va les acheter chez Picard. Le mot de la fin, Stéphane, il vous revient comme d'habitude chaque jour l'histoire d'une expression. Aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, j'ai voulu vous proposer une chronique souriante.
Ah.
Pourquoi dit-on passer l'arme à gauche?
Ah. Passer l'arme à gauche, c'est vrai que c'est militaire.
Vous allez voir, c'est une origine militaire.
Vous n'aimez pas dire quand j'ai raison?
Non, je n'aime pas parce que vous déflorez mon sujet.
Si peu, Stéphane.
Oui, c'est vrai.
Un petit peu. Tout de suite, prenez une profonde inspiration, messieurs. Comme Stéphane le fait si bien, comme les parents de notre deuxième personnage du jour quand elle a ouvert le gaz. Stéphane Bern nous raconte Violette Nozière.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Si j'ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c'est que depuis 6 ans, mon père abusait de moi. S'est défendu Violette Nozière face au policier qui l'interroge pour la première fois. L'inceste d'un père sur sa fille. Ce serait donc pour cela que Violette Nozière, 18 ans, a, un jour d'août 1933, fait boire à ses parents de fortes doses de Semenal, un puissant somnifère. Son objectif, les faire disparaître de sa vie. Un parricide, ni plus ni moins. Car d'après Violette, son père, Baptiste Nozière, l'aurait régulièrement violée durant son adolescence. La jeune femme n'a pas cherché à échapper à la justice. En revanche, elle a toujours soutenu bec et ongles qu'elle avait voulu punir son père des actes ignobles qu'il lui aurait infligés. Voici une partie de sa déclaration. « Mon père, quand j'avais 12 ans, m'a d'abord embrassée sur la bouche, puis il m'a fait des attouchements avec le doigt et enfin il m'a prise dans la chambre à coucher et en l'absence de ma mère. » Ensuite, nous avons eu des relations dans une cabane du petit jardin que nous possédions près de la porte de Charenton, à intervalles variables, mais environ une fois par semaine. Si le procès avait lieu aujourd'hui, ces accusations seraient prises très au sérieux et la police ne balayerait pas d'un revers de la main ces ignobles histoires de famille. Mais dans les années 30 en France, la société est encore corsetée dans une idéologie patriarcale. Le chef de famille, c'est le père. Il a tous les droits sur sa femme et ses enfants. Le tuer, comme l'a fait Violette Nozière, c'est le pire des crimes, peu importe les raisons. Alors inceste ou pas, mensonge ou vérité, Violette, l'ange noir, le monstre en jupon, comme la surnomment les journaux, doit payer. Et au prix fort. Le procès qui se tient à la cour d'assises est expédié en 2 jours et demi. 1 heure de délibéré, le juré, composé exclusivement d'hommes, la déclare coupable. Le juge prononce alors la peine. La parricide sera conduite à l'échafaud pieds nus, en chemise, un voile noir recouvrant sa tête. Violette demande aussitôt la grâce qui lui est accordée le 24 décembre 1934. Depuis 1887, plus une femme n'a été guillotinée en France. Sa peine est alors commuée en travaux forcés à perpétuité. 8 ans plus tard, en août 1942, le maréchal Pétain réduit sa peine à 12 ans avec interdiction de séjourner en France pendant 20 ans. En prison, Violette se montre exemplaire. Elle est libérée en août 1945. Le général de Gaulle lève son interdiction de séjour la même année et en 1963, la cour d'appel de Rouen la réhabilite. C'est la première fois qu'un prisonnier de droit commun condamné à la peine capitale est blanchi. Pourquoi la France décide-t-elle de laver l'honneur de cette condamnée à mort ? Violette Nozière est-elle coupable ? Ou est-elle victime ? Ou est-elle mythomane ? Lorsqu'elle naît en 1915 à Neuvy-sur-Loire dans la Nièvre, rien ne prédestine la petite Violette à mentir effrontément et encore moins à commettre un parricide 18 ans plus tard. Enfant affectueuse, élève modèle, elle obtient son certificat d'études à 12 ans, mais au même moment, elle multiplie les soucis de santé. Maux d'estomac, appendicite, faiblesse générale, elle est déscolarisée et part vivre chez sa grand-mère à Neuvy. À 13 ans, elle en paraît déjà 16. Violette flirte avec les garçons de la région ou avec les Parisiens en vacances. L'été, elle participe aux fêtes de village, rentre à minuit, fait mine de se coucher et ressort en catimini 5 minutes plus tard. Ces petits mensonges laisseront place à de plus importants au fil des années. Revenue à Paris, l'adolescente donne dans la prostitution et pose même nue pour un magazine. Certaines annotations dans ses bulletins y feraient directement allusion. Bonne tenue en classe, mais à surveiller au dehors. Conduite douteuse. Violette doit redoubler d'imagination et de duplicité pour tromper ses parents. Elle intercepte les mots envoyés par son lycée à propos de ses absences répétées. Et quand l'une des lettres échappe à sa vigilance et que ses parents la découvrent, la jeune fille n'hésite pas à dire qu'elle est victime d'un complot, que son professeur de mathématiques l'a prise en grippe et a monté tout le monde contre elle, y compris le directeur de l'école. Ses parents la retirent alors du lycée Fénelon et lui font prendre des cours par correspondance. Assignée à résidence, elle ne sort plus beaucoup, seulement pour se rendre à l'hôpital, car l'un de ses nombreux prétendants lui aurait transmis la syphilis. Mais rien ne semble arrêter Violette. Elle continue de mener grand train boulmiche, boulevard Saint-Michel. Elle passe une grande partie de son temps dans les cafés du quartier latin, s'invente une vie auprès de ses amis, elle ment sur son statut social. Son père serait ingénieur, sa mère première main chez le célèbre couturier Paquin. Mais en 1933, tout s'accélère. Violette tombe folle amoureuse d'un étudiant en droit, Jean Dabin. À lui aussi, elle fait croire qu'elle est riche héritière et volerait régulièrement de l'argent à ses parents. Selon la police, ce serait la raison de sa tentative de meurtre. Jean Dabin et elle veulent pouvoir vivre aisément et Violette aurait donc planifié l'assassinat de ses propres parents pour toucher les 165 000 francs d'héritage. C'est là que réside tout l'enjeu du procès. Violette a-t-elle tué son père et tenté d'assassiner sa mère uniquement pour des raisons pécuniaires ? Ou a-t-elle voulu se libérer définitivement de l'emprise mentale et sexuelle que son géniteur aurait sur elle ? L'opinion publique se déchire. Pire, des professionnels se montrent très virulents envers l'accusé, comme ce psychiatre qui, dans le journal François, dit de Violette qu'elle, je cite, « aurait été inconsciemment attirée par son père et aujourd'hui elle l'accuserait d'un acte qu'il n'a jamais commis, mais qu'elle souhaitait involontairement dans le plus profond de son être ». À la barre, lors du procès, des voisins affirment que l'attitude du père envers sa fille était normale. Ses collègues confirment que Baptiste Nozière était un père irréprochable. Le médecin se retranche dans le secret professionnel. Le policier qui a recueilli les confidences de Violette n'est quant à lui pas interrogé. En résumé, l'inceste est survolé. On ne saura jamais si Violette a dit vrai. Seule certitude, père, mère et fille ont l'éternité pour régler leur compte dans un huis clos ironique. En 1966, Violette Nozière meurt d'un cancer. Elle est enterrée dans le caveau familial de Neuvy-sur-Loire, entre son père et sa mère.
Europe 1, historiquement vôtre.
J'ai adoré cette chute, Stéphane. Pour continuer à parler de Violette Nozière, nous sommes avec la romancière Raphaël Riol. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Bonjour Raphaël Riol, vous êtes romancière, vous avez publié Ultraviolette aux éditions du Rouergue. Pourquoi avoir décidé de faire un roman à partir de ce fait divers? La vie de Violette Nozière était trop insupportable dans sa vérité, il fallait la romancer?
Alors écoutez, c'est l'histoire d'un coup de foudre d'un écrivain pour son personnage. Moi, j'ai pris mon premier contact avec Violette Nozière, c'était par le biais d'un recueil écrit par les surréalistes juste après l'affaire et que j'ai trouvé chez un bouquiniste. Et je suis tombée sur l'histoire de Violette Nozière en poème avec des photos de l'époque qui étaient extrêmement sulfureuses, des dessins de Dali, d'autres surréalistes. Et j'ai lu ces poèmes, j'ai vu ces dessins et je me suis vraiment demandé qui était cette fille qui au départ était une fille du peuple et qui avait comme ça inspiré autant d'écrivains. Et donc j'ai travaillé sur les archives, j'ai travaillé sur l'histoire. À ce moment-là, j'ai vraiment pas pu m'arrêter. Vous avez bien résumé le côté très intrigant de cette fille dont on ne connaîtra jamais la vérité profonde. Et à partir de là, j'ai d'abord travaillé un long moment sur les archives et après j'ai décidé, si vous voulez, d'en faire un roman parce que je me suis dit, en fait, cette fille qui mentait tout le temps, enfin en apparence, m'a semblé un personnage idéal dans la mesure où elle s'inventait des vies. Et donc, moi, en tant que romancière brodée autour d'une vie qu'elle avait elle-même tissée de mensonges, ça revenait, si vous voulez, à faire une sorte de super patchwork et donc de faire une fiction sur la fiction. Et c'est ça qui m'a intéressée.
Vous, Raphaël Riol, la forme que vous adoptez est aussi assez originale. Il y a deux faces, la face A et la face B. À quoi elles correspondent?
Alors, cette histoire de face A et face B dans le roman, si vous voulez, c'est un peu le... D'abord, pour montrer la double face du personnage, c'est vrai que Violette Nozière, c'est un peu une tête de Janus, avec une double face, comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Mais moi, quand j'ai fait ça, c'était aussi un processus narratif, dans la mesure où, comme sur les disques, les vinyles à l'époque, on avait toujours une face A qui était en fait le côté commercial, les chansons qui allaient marcher, et la face B, c'était le côté un peu plus expérimental sur les disques. Et pour moi, la face A est vraiment inspirée des archives. Je retrace toute l'histoire de Violette Nozière, toute l'histoire du crime. Et sur la face B, en fait, je me suis beaucoup inspirée des témoins du procès qui m'ont permis de faire des personnages secondaires qu'on voit dans les journaux. Il y a la marchande de fourrure, il y a l'avocat, il y a le prétendant, et voilà, il y a plein, la meilleure amie, tout ça, et qui m'ont vraiment inspirée pour imaginer en fait des scènes que je n'ai pas lues vraiment dans les archives, mais que j'ai imaginées à partir de ces documents.
Mais vous partez du principe, Raphaël Riol, qu'elle disait vrai quand elle affirmait que son père l'avait violée. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, vous expliquez que pour elle, c'est, son mensonge, c'est une fuite, un réflexe de survie pour affronter l'inaffrontable.
Si vous voulez, le problème des mensonges de Violette Nozière, alors quand on parle des mensonges de Violette Nozière, c'est effectivement, vous l'avez rappelé, c'est une condition sociale qui n'était... Elle racontait au Quartier Latin qu'elle était une riche héritière. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est que ces mensonges-là, le côté trouble du personnage est étroitement lié effectivement au crime, au parricide. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle a tué, si vous voulez, pour se construire une autre vie? Ou du moins, bon, c'était illusoire et naïf de le croire, bien sûr, mais pour repartir à zéro et vivre une vie meilleure, ou est-ce qu'elle a tué pour fuir parce qu'elle était elle-même une victime? Il est probable que Violette Nozière ait été victime d'inceste. Les expertises psy et les symptômes constatés, vous en avez parlé, déscolarisation, hypersexualisation, etc. Ces symptômes-là, en fait, évoquent des symptômes qu'on reconnaît chez toutes les victimes d'inceste.
Est-ce qu'il y a une part de stratégie aussi dans son mensonge? Elle a menti aussi pour séduire des hommes dans sa vie?
Oui, alors et c'est ça qui est extrêmement déstabilisant aussi, c'est qu'effectivement les hommes qu'elle draguait quartier latin à Saint-Germain la nuit, effectivement elle s'inventait une autre vie. Et d'ailleurs vous avez parlé de Jean Dabin, elle est tombée sur quelqu'un qui était encore plus manipulateur qu'elle et qui s'est laissé aussi prendre au piège, mais qui a commencé à douter au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a des choses plus troubles, si vous voulez? Par exemple, elle se prostituait et il semblerait qu'elle ne réclamait pas toujours d'argent aux hommes avec qui elle se prostituait. Et il semblerait qu'aussi elle se prostituait, c'est complètement illusoire, mais pour trouver une sorte de prince charmant. Est-ce que c'était une stratégie ou est-ce qu'elle avait autre chose en tête? L'idée, c'était de se trouver un prince charmant pour quitter le domicile. Cette idée fixe qui était en elle, au départ, c'est une idée fixe qu'ont tous les adolescents, hein, s'émanciper des parents, mais elle, c'est une idée fixe qui a mal tourné. Et du coup, je crois qu'on ne peut pas trancher entre la fuite d'une victime d'inceste et une stratégie autre. C'est, moi, en tout cas, en tant que romancière, je n'ai pas eu la réponse.
Et ce que vous dites, en tout cas, vous croyez peut-être à la sincérité de ces mensonges, mais si ce n'est qu'elle-même, elle se perdait dans son tissu de mensonges. Elle s'est pris les pieds dans le tissu de mensonges, au fond.
Oui, alors elle s'est pris les pieds. En fait, elle s'est pas toujours pris les pieds parce que est-ce qu'elle croyait à ses propres mensonges quand elle se disait riche héritière ou quand elle s'inventait une amie qui aurait été la fille du médecin qui la suivait? Ça, je ne pense pas. Je pense qu'elle savait très bien qu'elle était en train de raconter des salades. En revanche, est-ce qu'elle croyait que son destin pourrait basculer du jour au lendemain en fuyant, rencontrant un homme ou en tuant le père? Ça, oui, sûrement. Enfin, en fait, ça faisait partie, si vous voulez, des histoires et des fictions, si je puis dire, dont elle se gavait, puisqu'elle allait beaucoup au cinéma, Violette Nozière, sur ses heures de lycée, et elle rêvait en fait du prince charmant. Mais finalement, j'ai envie de dire, et ça c'est mon point de vue, mais comme on gave les petites filles avec des récits de prince charmant, et finalement, c'est une sorte de mythomanie excusable, puisque son vrai problème, c'est en fait d'être rempli de clichés envahissants et qui ont pris le dessus et qui l'ont poussé à l'acte ensuite. Une sorte de Bovary, si vous voulez.
Souvent au cinéma, dans le film que Chabrol lui a consacré en 78, et qui a valu d'ailleurs le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes à Isabelle Huppert, qui incarnait Violette Nozière, l'inceste est suggéré. Vous avez choisi de l'évoquer plus directement, cette cabane aux poupées dans le jardin. C'était important pour vous de le faire?
Oui. Alors bon, moi, je trouve que Chabrol, dans d'ailleurs la remarquable interprétation d'Isabelle Huppert, hein, Chabrol ne fait pas que la suggérer, parce qu'il y a cette locomotive qui siffle de façon assourdissante pendant tout le film, hein, qui ça ponctue comme ça le film. Il y a aussi cette scène dans le film où son père, qui est un peu voyeur, hein, la regarde se laver au gant de toilette dans l'appartement. Moi, effectivement, j'ai peut-être un peu plus insister là-dessus, parce que la cabane du jardin, en fait, si vous voulez, il y a l'idée comme ça d'un lieu clandestin où il aurait comme ça violé sa fille régulièrement. Mais elle dit aussi qu'elle aurait été violée dans l'appartement pendant les absences de la mère. Bon, je dis pas que j'ai pris parti, mais je pense qu'effectivement, il y a une relation au père qui, de toute façon, est très proche et qui est liée aussi à la promiscuité, à l'étroitesse du logement, puisque c'est une famille d'ouvriers, hein. Violette dormait dans le salon. Et donc, quand le père se levait la nuit, par exemple, pour aller uriner dans l'évier de la cuisine, il passait devant le lit de sa fille, il l'observait en train de dormir. Il y a toutes ces scènes, hein, qui ressortent, d'ailleurs, même dans ses propres lettres à elle. Donc, je me suis dit que c'était quand même quelque chose, une sorte de fil rouge dans le roman qui pouvait tenir comme ça le lecteur en suspens.
Mais donc, pour terminer, vous diriez qu'elle était d'abord une victime avant de devenir une criminelle?
Oui, enfin... j'ai du mal à trancher, en fait, parce que je pense que, en fait, si vous voulez, on peut dire, est-ce qu'elle a été victime, par exemple, de la justice? Vous l'avez rappelé, en fait, il y a un déni autour de l'inceste. Toute femme qui parlait d'inceste dans les années 30 était accusée, je cite, hein, de passion coupable. C'était quelque chose d'inavouable, en fait. C'était encore pire que d'être le coupable. Voilà. Et du coup, elle n'a jamais été crue. Alors, la mère est dans le déni. Ensuite, elle a été jugée par un tribunal d'hommes. Donc, quelque part, elle est bien quand même victime de la justice, puisqu'il n'y a pas eu de circonstances aggravantes. Elle a été condamnée à mort, bon, puis même à perpétuité après, on n'a jamais pris en compte ça. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a intéressée aussi, c'est cette réhabilitation, en fait. À la fin, finalement, la justice a fini par reconnaître que, quelque part, oui, peut-être qu'on n'avait pas assez écouté. Ça, c'est sûr.
En tout cas, merci beaucoup Raphaël Riol. Je rappelle le titre de votre livre, Ultraviolette, aux éditions du Rouergue. Et vous venez de publier toujours aux éditions du Rouergue, Le Continent. Merci d'avoir répondu à nos questions cet après-midi.
Merci beaucoup.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les grandes affabulatrices de l'histoire. Après Marthe Richard et Violette Nozière, vous nous brossez, Mathieu, le portrait pour une fois à 100% vrai d'une femme à 100% mytho-woman, Tania Head.
Tania Head, dont ce n'est évidemment pas le vrai nom, puisqu'elle est mythomane et que les mythomanes avancent souvent masqués, c'était ça. Je vous présente donc notre championne du jour, un pseudo de hardeuse slovène spécialisée dans le gonzo, un look de texane pure souche alors qu'elle n'est même pas américaine mais espagnole, l'ADN de Serge le mytho, les lunettes d'une assistante dentaire des années 80 et le sens moral d'une huître d'Oléron. Je vous présente Tania Head, fausse rescapée des attentats du World Trade Center.
Salope !
Alors certes, Stéphane, c'est dégueulasse, mais en tant que journaliste, nous devons nous interroger sur les raisons psychiatriques qui ont poussé cette femme dans les bras de l'affabulation. Dans la vie, il y a les petits mensonges du type « Mais je te jure, mon amour, que je n'ai pas jeté ton Actifry, cherche mieux dans la cave !» Il y a les moyens mensonges. Tu sais, je vais te dire un truc, moi je suis pas du tout appli de rencontre normalement, c'est la première fois de ma vie que je fais un rendez-vous Tinder, en fait t'es mon premier crush. C'est la tactique. Il y a ensuite la catégorie des gros mensonges dont certains sont si gros qu'ils peuvent t'emmener en tôle, par exemple quand tu commences un jour un mail par « Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que vous nous expliquons ci-dessous. » Et encore au-delà, parce qu'elle, elle a réussi à tenir le mensonge pendant des années, il y a Tania Head qui en 2003, deux ans après le crash des avions dans les tours jumelles, débarque sur un forum internet, la mine enfarinée, et se présente grosso modo comme ça. « Kikou, je suis une miraculée des attentats du 11 septembre. Après avoir été brûlée, j'ai été sauvée par un pompier volontaire qui a lui-même clamsé dans mes bras, mais pas avant de m'avoir donné sa bague de fiançailles dans un ultime souffle. Puis j'ai été plongée pendant 5 jours dans un profond coma avant de me réveiller et de découvrir que mon fiancé Dave n'avait lui pas survécu. » Un autre Dave, Stéphane. Vous vous souvenez, Stéphane, quand vous aviez de cesse en soirée de raconter que vous étiez le descendant direct du duc de Richelieu?
Eh bien,
cette
ça,
bonne
non.
Tania, on sait ce qu'on dit de vous. Cette bonne Tania, elle, prétendait avoir travaillé pour une filiale de la banque Merrill Lynch au 96e étage de la première tour du World Trade Center. En réalité, son seul lien avec le milieu bancaire, c'était les échanges par mail qu'elle entretenait avec son conseiller pour passer d'une carte électron à une carte gold. On se moque pas, Stéphane, pour la plupart des gens, c'est déjà très bien la carte gold. Celle qui s'appelle en réalité... Alicia Esteve vient de créer son faux personnage, celui de Tania Head, le 13 mai 2003, en envoyant son premier email de rescapé des attentats sur un site de discussion. Une bouteille à la mer vite repêchée par les victimes survivantes, bouleversées par son faux récit, elle tisse progressivement son mytho macabre avec talent et précision, puis en novembre, elle a son scénario bien abouti en tête, elle raconte son miracle publiquement et se pointe carrément quelques semaines plus tard à la première réunion de rescapés. Et là, si on peut dire, le miracle opère. Tout le monde tombe sous son charme, son histoire. Il faut dire qu'à défaut de l'avoir vraiment vécu, elle sait la raconter. Elle devient plus qu'une rescapée parmi d'autres, une mascotte de l'après 11 septembre 2001. Elle monte en grade, elle s'agite de plus en plus pour partager son récit, comme si elle voulait se tailler une place dans l'histoire avec un grand H. Son mytho prend des proportions folles. Le 7 septembre 2005, elle va jusqu'à jouer les guides lors de la première visite officielle de Ground Zero, à laquelle assiste le gouverneur de l'État de New York, le maire de New York et même son prédécesseur. Après un discours poignant, elle simule même une crise de panique parce que « it was too much for her », racontera le Huffington Post des années plus tard. C'était trop pour elle. Elle joue impeccablement bien son rôle, les autres rescapés, et c'est ça le plus fou, n'y voient que du feu. Ils ne sont pourtant que 19 à avoir réussi à s'échapper des étages supérieurs de la première tour touchée par le premier avion des terroristes. Tania, qui en réalité n'a vu le World Trade Center qu'en carte postale, devient présidente du réseau des rescapés du World Trade Center. C'est comme si David, qui n'a jamais réussi un lay-up, devenait président de l'association des anciens joueurs de la NBA. C'est à peu près le même niveau. Grâce à elle, ce groupe gagne en notoriété et en puissance. Le réseau recrute des milliers de membres, tisse des alliances politiques et convainc même la commission du mémorial du 11 septembre de lui donner de la visibilité dans le musée en construction sur le site du World Trade Center afin que la mémoire des survivants, et non pas seulement des morts, soit transmise aux générations à venir. Mais, vous le disiez, l'éternel souci des mythos, c'est qu'ils sont souvent pris dans ce qu'on appelle l'escalade du toujours plus. Toujours plus haut, toujours plus loin, jusqu'au mytho de trop. Constatant que personne ne doute de son histoire, Tania en rajoute. Elle affirme avoir étudié dans une université aussi renommée que Stanford et Harvard sans s'emmerder à fournir de diplôme. Elle atteint ce niveau de notoriété piégeux où, puisque personne ne remet en cause sa légitimité, le mythomane est incité à aller toujours plus loin dans le mensonge, comme Stéphane.
C'est l'année Flaubert et je me replonge en ce moment dans Flaubert.
Oui, et moi je relis Tolstoï, mais dans le texte, parce que la traduction c'est quand même pour les feignasses. Bref, Tania est prise au piège dans ce cercle vicieux de sa propre supercherie. Alors, comme au poker, quand on a commencé à bluffer avec une paire de deux, elle se retrouve obligée de faire tapis. Survivre au 11 septembre, tout compte fait, c'est banal. Alors Tania annonce, fin 2004, qu'elle a aussi porté secours aux victimes du tsunami en Thaïlande. Et puis en 2005, elle est copée aussi à la Nouvelle-Orléans après le passage de Katrina. Elle aurait vidé tout un quartier avec une cuillère à soupe. À l'époque, son auréole est telle que tout passe. Elle pourrait dire « Mon cousin est une licorne, j'ai couché avec Barack Obama, j'ai 8 reins ». Les journalistes lui diraient
« Non, c'est vrai ».
Mais peu à peu, ses récits commencent à éveiller les soupçons. Alertés par quelques membres du site de survivants qui commence à noter quelques incohérences dans ces différents récits, le New York Times décide d'enquêter. Et quand le New York Times enquête, c'est pas comme quand David enquête et qu'il arrive à contacter les experts, mais seulement après la diffusion de sa chronique. Au Times, c'est des pros, hein. Ils ont les experts avant de rédiger leur article. Ça va pas traîner. Résultat de l'enquête en quelques minutes seulement pour le journaliste du Times. Et non, Tania Head n'a jamais travaillé dans la finance ou dans le milieu de la banque toute sa vie. Elle ne s'appelle pas Tania et les amis de l'homme qu'elle présente comme son compagnon mort n'ont jamais entendu parler de cette sombre folle. Le 11 septembre 2001, Tania, officiellement Alicia Estève, ne se trouvait pas du tout dans les tours jumelles. Elle était à Barcelone en train de s'empiffrer de patatas bravas. Et oui, Barcelone qui était la ville où elle vivait, puisqu'elle est espagnole. Et qu'elle commençait à l'époque un MBA dans une école de commerce. La question qui se pose, évidemment, la question qui nous taraude tous, Stéphane, est la suivante.
Mais qui a eu l'idée, la première fois, en voyant un oursin, de dire « Tiens, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans ».
Non, non, la question était comment expliquer d'un point de vue psychologique que quelqu'un aille bousiller sa vie et affecter celle des autres en élaborant un mensonge aussi inutile, grotesque et blessant. Hélas, avec vos conneries d'oursin, on n'a plus le temps d'y répondre. C'est vraiment tout vous, ça, Stéphane, c'est dommage. Les psychiatres expliquent néanmoins que les pires tragédies génèrent souvent ce type d'appropriation du malheur de la part de mystificateurs qui, par identification mythomaniaque ou perversion, font leur miel de la souffrance des victimes, des cas que les spécialistes assimilent à une manifestation d'hystérie. Morale de l'histoire, les enfants, se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Par exemple, un type calé en histoire, jour ou l'autre, ça ne tient plus, votre mensonge s'effondre et vous avec. Comme Stéphane l'autre jour.
En attendant à la rentrée toujours, l'histoire de la gnomotique, de la gnomonique. Ah oui, c'est ça, les gnomons, les gnomoniques, gnomonique, gnomonique.
Oui Stéphane, il faut pas mentir, il faut jouer carte sur table. Vous ne connaissez rien à la gnomotique, vous avez confondu avec la domotique, qui n'a rien à voir.
Non mais ça va, je n'ai pas mitonné. Quoi.
Vous n'avez pas mitonné, c'est vrai. Mais c'est
dites-moi, une chose, est-ce qu'il... Personne ne s'est rendu compte que c'était espagnol, donc en fait, elle parlait mal l'anglais.
Mais non, parce que, je vous dis, c'était comme une actrice. Elle s'est mise dans le rôle et elle parlait anglais, visiblement. Et donc, personne n'a remis en cause. Vous verrez des photos, elle fait plutôt texane que...
Et personne, à ce moment-là, n'a vérifié son emploi du
mais
temps.
Non, mais, bah parce que pour une raison simple, c'est que... On peut imaginer de la mythomanie quand il y a un intérêt, par exemple parce que ça va nous rapporter de l'argent, etc. Mais là, c'est tellement triste et tellement... On ne voit pas quel serait l'intérêt à être une victime du 11 septembre, en fait. Donc, je pense que les autres victimes n'ont pas osé mettre en doute sa parole.
Vous avez raison. Cela dit, le point positif, c'est qu'elle a réussi tout de même à faire parler des... Non, parce que vous racontez qu'elle obtient des choses, que la place dans le musée, etc.
Et c'est
donc elle a donné une aura à cette
c'est
cause.
Peut-être pour ça, d'après ce que j'ai compris, que les autres, que les survivants n'ont jamais porté plainte. Oui. Contre elle, par la suite. Ils l'ont laissée tranquille. Voilà.
Ça avait beau être faux, c'est
ça a servi à quelque chose.
La fin, bah merci Mathieu.
Moi, je suis rescapé de la bataille de Waterloo.
C'est vrai. Oui.
Mon pauvre.
Mais on va voir ça tout à l'heure avec le Gravelax.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'histoire à la rescousse de votre quotidien. Chaque jour, David Castello-Lopez remonte pour nous aux origines d'une invention. C'est souvent un objet, mais c'est parfois une expression. Aujourd'hui, une expression qui vous a intrigué, l'expression « les vrais gens ».
Tout à fait. C'est une expression assez étrange quand même, qui est principalement utilisée par des personnalités politiques pour parler soit des gens pauvres et en difficulté, soit des gens qui n'habitent pas à Paris, mais en province. Par exemple, en septembre 2016, pendant la dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'est rendu à Châlons-en-Champagne. Et quand les journalistes lui ont demandé pourquoi il était là, il a répondu la chose suivante.
Je viens à Châlons pour voir la vraie vie, les vrais gens.
Voilà, je viens à Chalon pour voir la vraie vie des vrais gens. L'idée qu'il y a derrière cette expression, c'est que l'épreuve et la difficulté, elles contiennent plus de vérité que le confort et la richesse. En gros, les Parisiens riches, ils sont tout chimiques comme du plastique. Les classes moyennes, elles, en revanche, elles sont authentiques et naturelles comme du bois ou du foin. Vous voyez, c'est ça. Les riches, ils vivent dans une bulle hein, qui flotte au-dessus de la réalité. Les moins riches, ils ont les pieds dedans. Et cette expression, elle est quand même assez fréquente et elle est utilisée un peu par tous les bords politiques. Bon, à l'époque où Emmanuel Macron a parlé de la vraie vie des vrais gens à Chalon, il était ministre de l'économie de Hollande. Donc on peut dire que, d'une certaine façon, il était classé à gauche, même si plus grand monde le classerait à gauche aujourd'hui. Mais l'expression, elle est aussi très utilisée à droite, par exemple par Sébastien Huyghe, candidat UMP à la 5e circonscription du Nord en 2002, qui a battu Martine Aubry et qui a dit la chose suivante.
On s'occupe vraiment des problèmes des vrais gens. Hein, j'aime bien appeler ça des vrais gens. Je pense faire partie des vrais gens et je veux rester au plus proche d'eux.
Voilà, donc UMP, LR. C'est aussi utilisé par la droite de la droite aussi, beaucoup, hein, avec Marine Le Pen, comme par exemple dans ce meeting à Paris pendant la campagne présidentielle de 2012.
Ici, pas de stars, pas de showbiz, pas de spectacle indécent pour les caméras de télévision.
Ah non.
Mais la vraie vie, les vrais gens.
Voilà.
Les Français tels qu'ils sont.
Et vous voyez, là, il y a cette petite nuance que les vrais gens, c'est ceux qui ne sont pas devant les caméras, pas dans le showbiz. Mais alors, d'où elle vient cette expression? Bon, je vous le dis tout de suite, c'est impossible de le savoir précisément. Ah. Hein, c'est assez... Mais j'ai quand même essayé de trouver. Pour ça, je suis allé voir une dame qui s'appelle Bérangère Baucher et qui a été pendant longtemps lexicographe au dictionnaire Le Robert. Bérangère, elle possède énormément de dictionnaires et elle les connaît super bien. Elle a étudié beaucoup de mots. Et selon elle, l'expression « les vrais gens », même si on ne sait pas exactement de quand elle date, elle a été popularisée par Jacques Chirac pendant la campagne présidentielle de 2002, de 95, pardon, dans le but de rapprocher les gens, oui. De se rapprocher des gens, un peu dans la même veine que ce que font tous les gens dont on a entendu la voix depuis le début de cette chronique, hein, Macron, Huyghe, Le Pen. Bérangère, elle a même sur son ordinateur une base de données de l'utilisation des mots, et elle a fait une recherche sur les vrais gens qui a montré qu'il y a un pic d'utilisation depuis 95 pendant les campagnes présidentielles. Hein, les hommes politiques veulent se mettre en avant comme étant proches des gens. Donc bon, l'expression en gros, elle a sans doute été popularisée il y a 25 ans, mais elle s'inscrit dans une tendance beaucoup plus ancienne d'obsession pour les choses authentiques et vraies, ou en tout cas perçues comme authentiques et vraies. J'ai trouvé une pub de 1967 pour Pampril, par exemple, qui propose le vrai jus d'un vrai fruit et qui s'engage pour la vérité. C'est marqué sur la pub. Sous-entendu, contrairement à ces connards de chez Tang, qui eux adorent le mensonge et qui vous servent du faux jus de faux fruits. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, une marque de produits laitiers qui s'appelle Le Vrai. Et dont le slogan, c'est
« Ça fait du bien de goûter au vrai ».
C'est vrai, ça fait du bien de goûter au vrai. Et enfin, il y a une assez grosse tendance de la publicité depuis une quinzaine d'années à laisser tomber les mannequins canons pour mettre en scène des gens moins minces et moins beaux, un peu comme tout le monde dans cette pièce. Et il y a des agences spécialisées là-dedans. Et l'expression que ces agences mettent en avant pour parler de ce type de mannequins, c'est les « real people ».
Ah bah voilà.
C'est de l'anglais, ça veut dire les vrais gens. Il reste une question. Comment devenir un vrai Jean hein, quand on est un faux Jean comme faux. Nous Eh bien, je pense qu'il y a la réponse dans ma chronique. Hein. D'après tout ce que je viens de vous dire, c'est assez facile. Il faut 1. Déménager en province, préférablement à Chalon. 2. Manger des yaourts bio. Et 3. Si vous êtes mince, faut grossir un petit peu. Voilà.
Eh ben alors, vous n'êtes pas prêt de devenir un vrai Jean.
Vous êtes vraiment complètement faux.
En revanche, Olivier Pouls, vous êtes beaucoup plus vrai que moi.
Je suis totalement vrai Jean. Ouais.
Il est très très vrai Jean.
Ouais,
c'est
je suis vrai Jean.
C'est vrai. C'est
fier de l'être.
Et fier de l'être. Et vous allez nous le prouver encore, Olivier Pouls.
En faisant de la vraie nourriture, je vais vous préparer un vrai plat.
Le Gravlax.
Pour un petit apéro, pour une entrée même, pourquoi pas. C'est une manière que je trouve assez intéressante et assez facile de préparer le saumon, parce que traditionnellement, on le fait avec du saumon, mais j'y reviendrai, on peut aussi choisir d'autres poissons. Surtout, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que le saumon fumé, par exemple. On n'a pas tous un fumoir à la maison, c'est un peu technique, ça prend du temps. Enfin, je vous laisse imaginer un fumoir dans un appartement.
Oui.
Bon, je ne suis pas sûr que vos voisins soient très contents. En revanche, faire du Gravlax, ça prend un petit peu de temps, c'est le seul inconvénient, mais c'est très facile et vraiment tout le monde peut le faire, vous allez pouvoir le faire. La seule condition, c'est de ne pas vouloir manger dans les 5 minutes parce que ça prend 48 heures. Alors d'où vient cette technique finalement de préparation? Gravlax, ça vient du suédois qui veut dire « saumon enterré ». Parce que dès le Moyen-Âge, on a cherché des moyens de pouvoir conserver la viande et les poissons qu'on pêchait, parce qu'il n'y avait pas de frigo.
Et si on voulait, pas besoin de frigo.
Si on voulait,
dans les saisons.
Ça dépend des saisons.
L'été, il peut faire très chaud.
C'est vrai, c'est vrai.
Et donc, l'une des techniques, c'était le fumage. Et l'autre technique consistait à saler les filets de poissons et ensuite à les enterrer. et ça permettait ensuite de les conserver pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est de cette technique dont on s'est inspiré pour faire cette recette qu'aujourd'hui, dont on entend de plus en plus parler d'ailleurs, qui est le gravlax. Alors, quel est le principe du gravlax? C'est un mélange de sel et de sucre. Et en fait, le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe l'eau qui se situe à la surface du poisson, ce qui va bloquer l'action des enzymes qui sont responsables de la putréfaction. Et donc, votre poisson, votre saumon va pouvoir se conserver beaucoup plus longtemps.
Ça marche avec tout, alors ça marche avec la viande.
Ça pourrait marcher avec de la viande.
On peut faire une côte de bœuf gravlax.
Oui, mais alors, c'est une technique de cuisson, et c'est vrai que la viande, quand elle cuit de cette manière, elle reste un peu flasque, et en termes de texture, c'est quand même moins intéressant qu'une côte de bœuf qu'on a remis dans une poêle avec un peu de beurre, si vous voyez.
Ça, c'est ce que fait le sel. Et le sucre fait quoi, lui?
Alors, le sucre, il va développer les arômes. Il va contribuer à développer les arômes. Mais pour préparer ce saumon gravlax, il vous faut donc faire un mélange sel-sucre. En temps pour temps, on va prendre l'exemple d'un filet de 500 grammes de saumon. On peut prendre de la truite, on peut prendre d'autres poissons comme du lieu ou du cabillaud. On va rajouter, pour l'aromatiser, de l'aneth. Ça, c'est dans la recette actuelle et traditionnelle du gravlax. Un mélange de poivre concassé, de graines de coriandre, de baies rouges, etc. On va mettre ce mélange sel-sucre-épices dans le fond d'un plat. On va poser le filet par-dessus. Le filet côté peau, évidemment, pour qu'il soit en contact. On met un film plastique, on remet un plat et on met des pois de manière à ce que vraiment le saumon soit très en contact avec le sel, le sucre et les épices. Et ça, on va le laisser pendant au moins 36-48 heures dans un endroit frais, dans un frigo de préférence. Et là, va opérer et la cuisson et le développement des arômes, donc sous l'action du sel et du sucre. Mmh. On récupère ça après 48 heures. On le passe sous l'eau claire parce qu'il faut évidemment enlever l'excès de sel. Il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de sucre. Il faut enlever les excès de tout ça. Et vous allez voir que le dessus, mais c'est comme s'il avait cuit, en fait. Il s'est asséché et la texture n'est plus la même que celle d'un poisson frais. En revanche, à l'intérieur, la chair reste très bien protégée. Et avant de le servir, on va remettre un petit tour de moulin de poivre, remettre un petit peu d'aneth fraîche par-dessus, quelques baies roses, et on peut accompagner ça d'une sauce au yaourt. Voilà, c'est la technique du gravlax. C'est une bonne manière de pouvoir conserver votre saumon. Je rajoute juste qu'on le fait évidemment avec du saumon cru ou avec du poisson cru. On est toujours très prudent avec le poisson cru, il peut y avoir quelques petites bactéries. Et la technique, c'est de le mettre au congélateur pendant au moins une journée, parce que le froid tue un certain nombre des parasites qui peuvent... Bah malheureusement, s'il se développe, vous créez quelques petits inconvénients.
Au bout de 17 jours, on peut enfin passer à table, convier les amis.
Et sinon, après 48 heures, il est parfait.
Sinon, vous passez l'arme à gauche.
Voilà. mais c'est une transition sublime.
Le saumon gravlax n'est pas bien
Stéphane
fait.
Stéphane est en pleine forme, transition merveilleuse. Oui,
passer l'arme à gauche, mais voilà, vous l'utilisez tous, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire mourir. Alors, si on parle d'armes, évidemment, vous avez dévoilé une partie de la réponse, Mathieu.
Désolé.
On va trouver l'origine de cette formulation dans l'univers militaire.
Qui dit militaire dit guerre, et qui dit guerre dit Napoléon. Est-ce que Bonaparte a un rapport avec cette formule, Stéphane?
Je suis à ce point prévisible, Mathieu.
Non, je dois être très très
peut-être fort. Mathieu qui est à ce point génial.
Ça,
en fait.
Ça c'est une bonne idée.
Oui. En effet, dans l'inventaire de l'infanterie de la Grande Armée, on y trouvait de longs mousquets, des fusils dont les canons pouvaient faire jusqu'à 1,20 m. Leur principal inconvénient était le moment de la recharge après avoir tiré. Il fallait déchirer une cartouche qui était un petit carton dans lequel on y trouvait la balle du fusil ainsi que la charge de poudre. La manœuvre, faut bien le dire, était longue et délicate et en plus devait se faire en plein champ de bataille dans un contexte qui, vous le devinez bien, n'était pas très propice à la sérénité. Oui. On devait être un peu agité, un peu énervé, un peu stressé. Voilà. Pendant la recharge, donc, le soldat posait son arme sur sa gauche pour ne pas qu'elle tombe. Il passait l'arme à gauche à un moment où il était particulièrement vulnérable et en effet... C'est souvent à ce moment précis qu'il était tué.
Parce que le gars en face avait rechargé plus vite.
Oui.
En dehors de cette anecdote, il faut avouer que le côté gauche est toujours mal vu. Il porte la poisse. Être gauche, c'est être maladroit. Vous savez, d'ailleurs, dans certaines langues, la gauche se dit sinistre.
Sinistre.
Vous imaginez ce que ça provoque comme sinistre. Et à contrario, avoir de la droiture, c'est plutôt une bonne chose. Une autre explication est possible, et elle nous vient du Moyen-Âge. Quand deux grandes familles... Moi, c'est cette explication, je vous dis tout de suite, que je privilégie. Hein. Quand deux grandes familles s'unissaient, on refaisait les armoiries
ce qu'on appelait les armoiries d'alliance pour redessiner un nouveau blason. Celle de l'époux était à droite, celle de l'épouse était à gauche. Et quand le mari mourait, il était de tradition de redessiner les armoiries à gauche. Passer les armes à gauche, ça me paraît une piste plus que plausible. Alors, peut-être complémentaire. Voilà. Vous aimez...
Mais c'est-à-dire qu'on est complètement convaincu. Moi, pour ma part, je vous rejoins là-dessus. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous avez ménagé le suspense avec cette histoire de Napoléon.
Oui, mais parce que... Voilà, il y a les deux explications se trouvent.
Je crois
en cette En Espagne, aujourd'hui, on est optimiste. Car pour dire mourir, on dit pasar a mejor vida. Passer à une meilleure vie. Encore faut-il croire à l'au-delà. En italien, c'est tirar il calzino. Tirer la chaussette. Je ne vois pas trop le rapport. Alors qu'en wallon... On dit aller au pays des taupes et là, on comprend mieux.
Il y a ce côté pragmatique et concret. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré aux fabuleuses affabulatrices de l'histoire. Dieu sait que vous en avez connu des mythomanes, Stéphane.
François de Rugy.
Pas de nom, s'il vous plaît. Mais celles dont on a parlé aujourd'hui, waouh, elles étaient vraiment nos limites. Qui de Marthe Richard, Violette Nozière ou Tania Head vous a le plus bluffé, Stéphane?
Écoutez, personnellement, Marthe Richard, je ne connaissais rien de cette vie que Nicolas Destiendorf nous a racontée.
Bah lui non plus, on ne sait pas ce qui est vrai ou faux dedans.
Mais voilà. Mais la Tania Head, alors ça me paraît la plus culottée quand même. Passer, se dire, oui, c'est vraiment une mythowoman débile.
On rappelle pour ceux qui auraient raté que c'était la mythomane du 11 septembre qui s'est fait passer pour une victime du World Trade Center, mais qui ne l'était pas. Demain, à quoi faut-il s'attendre, Stéphane?
On se retrouve demain, déjà, c'est une bonne nouvelle, avec trois nouveaux personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, d'abord parce qu'ils ne sont pas de la même époque, et ensuite parce qu'ils n'avaient pas envie, forcément. Peut-être dans un hôpital de films d'horreur, si.
Oui.
On réunit trois docteurs maboules. Le bon docteur Petiot, l'anglais empoisonneur William Palmer
et O'Neill Ron Morris, une fausse chirurgienne transsexuelle qui a pris l'expression « avoir un cul en béton » au premier degré, au grand dam de ses patients, vous verrez.
C'est vrai, ça marche pas.
Non, ça marche pas top.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.